l'économie n'a pas pu supporter la formidable vague sociale. Il faut faire une pause dans les revendications. Léon Blum en appelle au civisme des fonctionnaires et des salariés.
Il faut une pause. D'abord, pour une raison bien simple, bien vulgaire, c'est que depuis 8 mois passés, nous sommes allés très vite et qu'après une course si rapide, eh bien, il peut être naturel de souffler un peu. Nous pourrons repartir bientôt ensemble, repartir pour de nouvelles conquêtes, pour de nouveaux progrès et pour de nouvelles victoires.
Juin 1937. Un an s'est écoulé depuis la victoire électorale. Léon Blum tente de galvaniser un front que minent les manœuvres des communistes et les réticences des radicaux.
Nous avions à faire cette preuve d'un changement, sans sortir du cadre légal, sans sortir du cadre constitutionnel, en restant entièrement fidèle à ce qu'il y avait d'essentiel dans le pacte du rassemblement, c'est-à-dire un engagement de fidélité vis-à-vis des institutions démocratiques telles qu'elles fonctionnaient avant nous et telles qu'elles continuent à fonctionner sous notre gouvernement. Et en ce sens, notre épreuve à nous était une épreuve pour la démocratie internationale, une épreuve dont elle a bientôt senti et dont elle sent de plus en plus vivement toute l'importance. Il s'agissait de montrer en effet que dans un monde où le grand argument des autocraties est la rapidité, l'efficacité, il était possible de produire un changement prompt et décisif sans sortir du cadre légal et sans excéder le jeu des institutions démocratiques. Là était notre première difficulté. Et nous avions aussi à montrer que cette action législative prompte, décisive, aboutissant à un changement tangible et certain pour tous, il était réalisable par un gouvernement de coalition et sur un programme de coalition. Car nous représentions au gouvernement non plus le Parti Socialiste qui nous y avait délégué, mais au même titre que nos camarades, que nos collègues venant d'autres partis, le Rassemblement Populaire, notre programme de gouvernement, c'était le programme de Rassemblement Populaire délibéré et adopté, non pas par nous seuls, Parti Socialiste, mais par une réunion de partis politiques, d'organisations politiques, d'organisations corporatives. Ce programme était notre force, notre lien, mais il était aussi notre limite. Il a prouvé contre tous les apologistes des régimes autoritaires et totalitaires, contre tous leurs apologistes à l'extérieur et à l'intérieur, que les institutions... qu'entre des mains loyales, les institutions démocratiques restaient un instrument efficace, peut-être l'instrument le plus efficace de la justice et du progrès. porter le coup le plus dur et le plus décisif à toutes les entreprises factieuses dans ce pays. Nous avons montré que sans sortir de la loi, sans sortir du pacte constitutionnel, sans même demander des pleins pouvoirs au Parlement, il était possible de réaliser et de réaliser dans le temps le plus court un ensemble de mesures qui ont transformé encore beaucoup plus profondément que nous ne nous en apercevons nous-mêmes la condition des travailleurs et la condition humaine d'enseigner. Commencement de reprise économique encore insuffisant. Je l'ai dit dans une interview que Le Populaire a reproduite et je le déclare encore insuffisant et qu'il faut à la fois consolider et amplifier. Nous avons, malgré toutes les difficultés et parfois même en dépit d'un manque de bonne volonté de la part de certains, je ne veux pas ici en dire davantage. Nous avons évité jusqu'à présent la crise financière et monétaire dont on nous menaçait de mois en mois et de semaine en semaine. Et en même temps, depuis tantôt un an, au milieu d'une des crises les plus dangereuses que l'Europe ait jamais connue, nous avons maintenu la paix et nous la maintiendrons. Nous la maintiendrons. Nous la maintiendrons comme elle doit être maintenue, c'est-à-dire en préservant l'intégrité de tous les intérêts essentiels de notre pays. Voilà, mes chers amis, mon compte-rendu de mandat. Je vous ai tout à l'heure énuméré un grand nombre de difficultés, les unes de caractère nécessaire et permanent, tenant à la nature même d'un parti socialiste, tenant à la nature même de ses rapports avec une démocratie. D'autres, au contraire, n'ont pas précisément fortuit ni occasionnel, mais tenant cependant à la particularité des circonstances dans lesquelles nous avons pris le pouvoir. Je vous en ai parlé peut-être au passé défini ou indéfini. Elles sont présentes, elles continuent. La plupart d'entre elles ne cesseront point. Et de là vient le caractère si particulier, si singulier de notre gouvernement qui porte en lui tous les caractères de la durée et qui cependant chaque jour peut se trouver en présence de nouveaux obstacles. J'ai dit un jour à un journaliste étranger, bien que je ne sois pas un sportsman accompli, dis-nous, ne courons pas une course de plat, nous courons une course d'obstacles. Un jour, nous sautons une haie et, mon Dieu, nous nous retrouvons sur nos pattes. Le lendemain, nous en sautons une autre et puis une autre et puis une autre. Et je ne vois pas à quel moment nous trouverons devant nous le plat, la ligne droite. Et bien entendu, nous courons toujours le risque de faire panache au mur en terre ou à la rivière des tribunes. C'est cela qui donne, d'ailleurs, à notre vie, à laquelle, par surcroît, les émotions n'ont pas manqué, un piquant, une saveur toute particulière. Tout ce que nous faisons, toute notre existence, est pénétré au même degré du sentiment de l'éphémère et du sentiment de la durée. Et ce n'est pas une mauvaise règle de morale pour des gouvernements. Je ne sais pas quel est le philosophe ancien qui a dit que la seule règle de morale pour l'homme était de vivre comme s'il devait mourir à la minute suivante. Notre première année d'existence ministérielle se termine, nous en commençons une autre, avec allégresse, avec confiance, avec fierté, sûr d'être soutenu par vous pendant cette seconde année comme nous l'avons été pendant la première. Et c'est ici, l'an prochain, à pareille date, que je vous donne rendez-vous.
Léon Blum rend à Aristide Briand, l'apôtre de la paix, un vibrant hommage.
On se demande si l'histoire, obéissante à la loi nietzschéenne du retour éternel, n'est pas en train de reconstituer à présent l'Europe d'avant-guerre. L'Holocauste aurait été vain. Tant de sang aurait coulé en pure perte. Car ceux qui sont tombés ne se dévouaient pas seulement au salut de leur nation, ils entendaient que le sacrifice de leur vie contribua à édifier sur les ruines d'un monde dévasté par la guerre, le monde différent, le monde d'où la guerre serait à jamais exclue. Quelle trahison envers la mémoire des morts! Quelle désolation pour les vivants si, en effet, la guerre n'avait rien changé. Et si rien n'était changé à la guerre. Si l'ouragan de 1914 avait passé sur l'univers en bouleversant pour un temps sa surface, mais sans secouer durablement ses profondeurs. J'affirme bien dit qu'il n'en est pas ainsi, que nul n'a le droit de désespérer, que les sacrifices n'ont pas été vains, que l'œuvre de Briand n'a pas été vaine. Sans doute, il était humain, exempt non seulement de cruauté, mais de malignité, incapable non seulement de représailles, mais de rancune, enclin non seulement à oublier les injures, mais à les pardonner. Sans doute, il avait plus de goût et plus d'aptitude pour la persuasion que pour la domination, et son autorité s'exerçait plus volontiers par voie d'ascendant et d'influence que par voie de commandement brutal. Mais il n'était cependant ni naïf, ni ingénu, ni débonnaire. Il n'était pas du tout facile à tromper. Sans nul parti pris de soupçon, il pénétrait par une clairvoyance naturelle les intentions et les arrière-pensées. Il savait clairement, obstinément, ce qu'il voulait. Sous un apparent détachement, il apportait en réalité à ses desseins une ténacité presque entêté. Et ni la complexité des moyens, ni la sinuosité des approches ne le détournaient jamais du but. À la fin d'une carrière multiple et romanesque, qui avait permis à un de ses contemporains de lui appliquer le mot célèbre, on n'oserait pas rêver comme il a vécu. Il ne proposait plus à sa vie qu'un but unique, la paix. Et je tiens à répéter encore qu'à ses yeux, la paix était tout autre chose qu'un mot noble ou qu'une inspiration généreuse. Car il n'était pas dupe des grands mots. Car il était plutôt porté à percer d'un geste sceptique les étalages de grands sentiments. Non, la paix était à ses yeux une réalité déjà tangible qui s'extrayait chaque jour de l'idéal et qu'il appartenait à l'effort humain d'achever dans sa consistance définitive. Vouloir la paix pour lui, ce n'était pas formuler une vague déclaration de principe. C'était rechercher, confronter, essayer toutes les conditions concrètes et tous les moyens pratiques de la solidarité internationale. C'est qu'il était inutile. C'est que Briand n'aurait pas eu besoin d'un monument pour durer dans le souvenir des hommes. Pour moi, qui l'ai connu familièrement pendant près de 35 ans, qui ai vécu dans son amitié au commencement et à la fin de sa carrière, j'éprouve à la fois de la fierté et de l'attendrissement en apportant aujourd'hui à sa mémoire déjà glorieuse l'hommage du gouvernement de la République et du peuple français.
Blum reviendra au pouvoir pour quelques semaines en 1938, mais le Front populaire est bien mort. La guerre se rapproche d'ailleurs à grands pas.
J'ai montré comment cette politique, qu'on vantait comme si prudente, si paisible, si sagement proportionnée aux besoins et aux forces de la France, la laissait cependant face à face avec l'Italie. C'est-à-dire, suivant toute probabilité raisonnable, avec l'axe Berlin-Rome. On croyait esquiver des périls et des risques en désertant le plan d'action européen. Il se retrouve sur le plan impérial à peu près identique à eux-mêmes. Une nation, pas plus qu'un individu, ne modifie à son gré les conditions vitales de son existence. Que faudrait-il pour que cette situation fût réellement transformée? Si je recherche les terrains de friction et les points de litige entre la France et l'Italie fasciste, je trouve la menace dirigée en Espagne continentale et aux Baléares contre la sûreté de notre frontière pyrénéenne et de nos communications avec l'Afrique du Nord. Je trouve les prétentions formulées au nom du principe raciste, sur la Corse et sur la Tunisie. Je trouve un ensemble de revendications liées aux intérêts de l'établissement italien en Éthiopie, côte des Somalis, port et chemin de fer de Djibouti, contrôle du canal de Suez. Je trouve, en essayant de pénétrer plus profondément dans l'avenir, tout un complexe d'appétit dont les uns ne correspondent qu'à l'orgueil et à l'avidité conquérante du régime, mais dont d'autres traduisent des besoins réels de la nation, besoins de crédit, de matières premières, de territoires de peuplement pour une population plus féconde que son sol. à toutes ces entreprises, à toutes ces exigences plus ou moins distinctement formulées, l'opinion française répond par un non catégorique et absolu. J'ai rempli mon devoir en faisant sentir toute la signification et toute la portée de ce non. Mais pourquoi l'opinion est-elle unanime à le prononcer? Parce que l'Europe est habitée par un esprit de guerre, parce que les entreprises et exigences de Mussolini sont évidemment empreintes de cet esprit. Telle concession, tel arrangement que la pression de la force interdit serait offert libéralement, généreusement, pour rendre la concorde plus durable et plus profitable. Car tout est possible et facile sous l'empire de la paix, c'est-à-dire de la bonne volonté et de la bonne foi réciproque, de l'amitié et de la raison. C'est de ce rêve que nous, socialistes, nous voulons faire une réalité. Nous comprenons bien. Quand nous parlons de conférences générales et de règlements d'ensemble, quand nous nous efforçons de montrer qu'en effet, la paix véritable suppose et engendre à la fois la confiance internationale, que par conséquent, elle est indivisible, que par conséquent, elle est désarmée. Nous ne faisons pas autre chose qu'indiquer les moyens de tirer une réalité du rêve. Mais hélas, la mise en œuvre de ces moyens ne dépend pas de nous seuls, ne dépend pas de la France seule. Nous restons en attendant, face à face, avec les durs problèmes que pose l'Europe d'aujourd'hui. Nous sentons toujours suspendus sur nous les mêmes dangers auxquels le gouvernement français ne pourra parer qu'à force de clairvoyance, de fermeté et de droiture en s'imposant strictement le devoir de dire ce qu'il pense, de faire ce qu'il dit, de vouloir ce qu'il fait.
Léon Blum a été déporté en Allemagne. Il est libéré par l'avance des troupes alliées en 1945.
Nous avons connu en Allemagne la séparation totale du reste du monde et la suspension permanente de la mort. Nous n'avons connu ni les coups, ni l'accablement du travail servile, ni même à proprement parler la faim. Mais je suis un témoin et je peux déposer pour les martyrs dont bien peu sont revenus pour déposer eux-mêmes. J'ai vu de mes yeux, comme dans les bas-reliefs égyptiens ou assyriens, la longue file des captifs attelés comme des bêtes aux chariots chargés de pierres ou courbés sous les longues pièces de bois qui faisaient plier leurs épaules. Des nuits durant, j'ai respiré l'odeur des fours crématoires.
Mars 1946, Léon Blum est envoyé aux USA comme ambassadeur extraordinaire.
Le monde d'après-guerre est un monde difficile. Nous ne devons ni nous en étonner, ni y trouver un sujet de découragement. Il n'était pas possible que les conséquences d'un bouleversement universel qui a duré plus de 6 années puissent s'effacer, s'évanouir avec la victoire. Mais pour ma part, je suis convaincu que toutes ces difficultés se résoudront l'une après l'autre
si elles sont abordées comme l'ont été nos négociations communes, c'est-à-dire avec un sentiment d'intelligence mutuelle, de confiance réciproque et surtout avec une foi profonde dans la solidarité internationale.
Il préside du 16 décembre 1946 au 16 janvier 1947 un gouvernement socialiste homogène avant l'élection du premier président de la 4e République. Son objectif numéro un, stopper la flambée des prix.
Aujourd'hui, le gouvernement se dresse avec toute l'autorité de l'État et, j'en suis sûr, avec la puissance irrésistible de l'opinion publique pour dire à la hausse, non, tu n'iras pas plus loin. Non seulement tu n'iras pas plus loin, mais désormais, tu vas reculer. La bataille contre les prix est engagée, le peuple français la gagnera.
Le gouvernement a ordonné une baisse autoritaire et générale de 5%.
Le gouvernement a reçu successivement cet après-midi les dirigeants du comité du Conseil national du patronat français, de la Confédération générale de l'agriculture et de la Confédération générale du travail. Il a notifié aux uns et aux autres cette double décision. Il a rencontré de leur part à tous l'accueil le plus chaleureux. Les uns et les autres lui ont promis l'adhésion et le soutien sans réserve de leurs organisations et de leurs militants. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, un acte d'autorité gouvernementale entreprend de briser le cycle de la hausse et de porter l'effort sur la baisse systématique des prix. C'est un appel semblable que j'adresse au public. Il faut à la fois sauver le franc et créer des conditions d'existence meilleures pour tous. Nous sommes un gouvernement transitoire. Nous sommes cependant résolus à orienter dans la seule voie qui nous paraisse être la voie de salut, l'économie générale de la France. Nous sommes certains d'être suivis par l'immense majorité des hommes et des femmes de notre pays.
Léon Blum renonce à former le nouveau gouvernement.
Parler de France vous présente son édition complète du soir. Écoutez une déclaration de M. Léon Blum, président du gouvernement provisoire de la République française.
J'ai essayé de remplir le mandat qui m'avait été confié par l'Assemblée nationale. J'ai essayé de constituer un gouvernement de concentration républicaine et démocratique dans un climat de concorde nationale. J'ai échoué. Peut-être cet échec m'est-il imputable à moi-même, peut-être dans la conjoncture politique actuelle, ma tentative n'était-elle pas réalisable. Quoi qu'il en soit, j'ai échoué.
1950. Léon Blum meurt à Jouy-en-Josas. Il a 78 ans.